C'est parti. Bon, voilà. Alors, donc, nous abordons aujourd'hui un nouveau chapitre, les querelles christologiques des premiers siècles. On a un peu déjà parlé hein, la dernière fois avec l'histoire du Verbe. On a déjà parlé des querelles christologiques. C'est en fait, on va tourner autour pendant tout ce cours. Mais là, on va aborder la question sous un angle particulier, une période particulière. Voici le plan que je vous propose. Ça va nous prendre deux soirées. Donc on se retrouve donc pas lundi prochain, ni le lundi suivant. Bon, ça, vous avez bien noté. On se retrouvera le lundi dans 3 semaines. Ce soir, on va faire le 1 et le 2, c'est-à-dire la crise iconoclaste. Donc je vais prendre et la querelle christologique par un petit bout. Je prends un fil et je vais le tirer. Et en fait, grâce à ça, on va pouvoir comprendre quelles sont les deux grandes tendances qu'il y a eu en fait pendant toute la période de la crise christologique, des interrogations christologiques, c'est-à-dire celle des conciles œcuméniques qu'on a vu la dernière fois, les 7 premiers conciles œcuméniques. Et puis dans 3 semaines, nous verrons l'image de la Trinité, comment parler de la Trinité. Nous verrons que même le fait de parler de père, de fils, bah, c'est une image lexicale. Parce qu'évidemment, ce n'est pas un papa, parce que où est la maman? Enfin bon, vous voyez. Mais ça veut dire quelque chose. Père, fils, c'est la raison pour laquelle l'Église l'a gardé, bien sûr. Ça, c'est la prochaine fois. Et on fera aussi un sous-chapitre très important, les promesses du Saint-Esprit. C'est une manière pour nous de parler du Saint-Esprit. Il y aura une feuille que je déposerai, que vous pourrez imprimer de manière à l'avoir sous les yeux, ou bien vous ne l'imprimez pas. Enfin, mais il y aura des citations importantes de Saint Jean, et il faut qu'on ait la même traduction. Alors allons-y avec le plan plus précis. Attendez, je vais fermer la porte ici, parce que je suis dans un bureau, dans une de nos maisons. Et il y a des gens qui circulent. Voilà, là j'ai moins de bruit et peut-être que vous n'aurez pas de bruit de fond. Alors, donc, premièrement, la crise iconoclaste et le plan va revenir, hein, bien sûr. Vous savez maintenant comment je procède avec mes PowerPoints qui sont toujours très illustrés, avec des plans très précis et que je suis d'une manière très régulière. Et j'ai surligné des visites en iconologie que nous allons faire dans la première partie, la mosaïque de Germigny, vous verrez, et dans la seconde partie, où on fera les deux grands blocs qui n'ont cessé de travailler l'intelligence chrétienne, eh bien on ira visiter deux baptistères dans la même ville, à Ravenne, des baptistères très antiques. Alors allons-y avec la crise iconoclaste, c'est bien curieuse expression. Et pour ça, on va se rendre chez Théodulfe, que voici. À quelque distance d'Orléans, dont il vient d'être fait évêque par Charlemagne, vous voyez, ça vous donne la date, Théodulfe se fait bâtir une résidence assez importante, genre villa romaine. Nous sommes en 797. Théodulfe a 42 ans et il est au sommet de sa puissance. Depuis, il vient d'être fait évêque. Depuis une vingtaine d'années, il est à la cour de Charlemagne. Donc, vous voyez, il y est depuis une vingtaine d'années, ça veut dire qu'il a été recruté à 20, 22 ans, comme ses deux autres compagnons, qui sont des jeunes gens très érudits, sortant de monastères, d'écoles monastiques. Vous avez là sur cette image un gars qui s'appelle Paul Diacre. On ne sait pas vraiment si ce nom Diacre et le fait qu'il ait été ordonné diacre, ou si c'est son nom de famille, on ne sait pas très bien. Et puis vous avez Alcuin, que vous avez à droite là, le fameux Alcuin qui va devenir quasiment premier ministre de Charlemagne. Alors que Paul Diacre sera, aujourd'hui, on dirait, un assistant de direction. Et donc, il travaille à la cour de l'empereur avec Théodulfe pour mettre en œuvre ces vastes projets de réforme et d'administration, tant civile qu'ecclésiastique. C'est le siècle de Charlemagne, hein, c'est un siècle absolument extraordinaire, c'est un des sommets qui a fait notre culture européenne. Théodule fut très marqué, très remarqué comme missus dominicus. C'est quoi? C'est un envoyé spécial. Charlemagne, régulièrement, chargeait de mission un de ses conseillers, un des membres de la cour, il le chargeait de mission. Il avait comme ça un certain nombre de missi dominici, et qui était chargé d'aller contrôler que ces décrets étaient bien appliqués en province, dans les provinces. Et donc un missus dominicus partait généralement avec une trentaine de soldats et allait voir, vérifier que l'administration décrétée par Charlemagne était bien appliquée. Et lui, il est très remarqué, Théodulfe. Il a de grandes qualités, il est très intelligent, il est très diplomate. Le nouveau poste qui vient de lui être confié quand il a 42 ans n'est pas tout à fait un bâton de maréchal. Il est nommé évêque d'Orléans, mais ce n'est pas juste une distinction. Il s'agit en fait, pour le projet de Charlemagne, de tisser une trame administrative sur tout l'Empire, et ce, en utilisant l'Église et ses érudits. Il a besoin d'évêques qui soient comme des administrateurs généraux, et il a besoin d'abbayes qui soient comme des relais de son administration centrale. Et donc Théodule, vous voyez, il est nommé à Orléans, en quelque sorte, pour être gouverneur de cette région. Il reste conseiller de Charlemagne, ce qui fait qu'il fait des allers-retours assez régulièrement jusqu'à Aachen, Aix-la-Chapelle, en Moselle, en Allemagne, ou bien quand Charlemagne est en déplacement à Clermont-Ferrand, à Bordeaux ou ailleurs. Ce qui arrive souvent à Charlemagne. Il était souvent sur son cheval. Et Charlemagne meurt en 814. Probablement trop puissant, un homme probablement trop influent, il est déposé 4 ans plus tard par Louis le Pieux, le successeur de Charlemagne. Alors il est déposé sous prétexte de complot. Bon, il fallait bien trouver un prétexte pour défaire un homme aussi important. En fait, il avait gardé, peut-être un peu maladroitement, quelques liens d'amitié avec le roi Bernard d'Italie, lequel se rebelle précisément contre Louis le Pieux. Et donc Louis le Pieux va prétexter de cette amitié avec un adversaire pour retirer à Théodulfe toutes ses charges. Donc il se retrouve à Germigny, avec sa villa. C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir en effet Germigny, la villa cossue de Théodulfe. Ah ben voilà, ah, j'ai oublié de passer cette photo. Voilà le palais de Aachen, Aix-la-Chapelle, dont il ne reste aujourd'hui que la chapelle qui est en haut là, de ce dessin, l'octogone, enfin le polygone, hein, ce n'est pas un octogone. La chapelle, la salle palatine, vous voyez, qui est en bas à droite, elle a disparu. Et ça ressemble beaucoup à une basilique. En fait, c'était la salle de réception, la gouvernance de Charlemagne. Et le reste, ce sont des bureaux, centres d'administration, c'est très étonnant, on est en 800, un peu avant. Et donc, on va aller visiter Théodulfe. Sa résidence n'est pas loin de Saint-Benoît-sur-Loire, dont vous voyez la tour-porche ici et le clocher sur la Loire. C'est entre Saint-Benoît-sur-Loire et Orléans. Nous trouvons là, en fait, l'ancien oratoire qui reste de cette ville-là. Tout le reste a pratiquement disparu, mais l'oratoire nous est resté. Sa forme, dont voici la maquette, sa forme en croix grecque. Ouais, croix grecque, c'est-à-dire une croix, si vous regardez le faîtage des toitures, une croix dont les bras sont égaux. C'est ce qu'on appelle un plan centré. C'est-à-dire à partir du centre, toutes les parties sont égales. Et donc une croix grecque, ce qui est une rareté en France. Donc, il y a quelque chose qui nous intrigue. Plus encore, la mosaïque qui s'y trouve. Et donc cette chapelle carolingienne, unique en France, enfin il y en a deux en France, hein. Cette chapelle carolingienne a été très entretenue, restaurée, comme trésor, pratiquement comme trésor national. Or, à l'intérieur, il y a une mosaïque dans l'abside, et elle est étrange, elle aussi. En fait, tout ça vient de Byzance. Comment ça se fait? Que s'est-il passé pour que cet art-là, qui est un art byzantin, nous vienne sur les bords de la Loire? En effet, depuis que Charlemagne s'est fait couronner empereur par le pape en 800, à Noël, vous savez, hein, ben, il y a de la tension entre l'Occident et l'Église byzantine, parce que l'Église byzantine a du mal à supporter qu'un autre prétende être empereur. On voulait, à Byzance, garder le seul, pour eux seuls, le titre d'empereur. Or, vous savez que Charlemagne, donc, réclame d'être empereur d'Occident, et il l'obtient du pape. Théodulfe, ancien Missi Dominicus, a-t-il fait ici acte de diplomatie en invitant des maçons, des architectes, des mosaïques byzantins? Après tout, c'était pas bête. Vous savez, quand Sarkozy voulait, pas Sarkozy d'ailleurs, c'était Macron. Quand Macron voulait amadouer Poutine, eh ben, il a fait une exposition. Je ne sais plus sur quoi, sur l'art russe, au château de Versailles. Et Poutine est venu. Et donc, vous voyez, les liens diplomatiques par des commandes esthétiques, ça a toujours existé. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que Théodulfe s'est fait construire, par diplomatie, une église byzantine? Une église byzantine sur les bords de la Loire. C'est quand même, voilà, ça pose bien des questions. Eh bien, en fait, non, c'est pas ça la raison. Il y a une autre raison bien plus intéressante qui va nous intriguer et nous obliger à réfléchir. C'est qu'à Constantinople, nous traversons une crise très grave, l'iconoclasme. Alors, l'iconoclasme, qu'est-ce que c'est? Kézako. Kézako, je vous rappelle, hein, c'est le nom d'une excellente émission. Que j'animais avec Loïc Landreau comme journaliste et qui consistait sur KTO à éclairer un mot en 6 minutes. Donc tout ça est disponible sur YouTube, hein. Et donc on a fait une petite émission sur Iconoclaste. Donc outre le fait que ce soit une injure bien connue du répertoire du capitaine Haddock, il s'agit là en fait d'une des crises qui a traversé l'Église, une des crises les plus importantes. Surtout d'ailleurs pour les chrétiens d'Orient. Nous, en Occident, ça ne nous a pas beaucoup frappé. Il s'agit en fait de savoir la question iconoclaste. Il s'agit de savoir si oui ou non on peut représenter en image, c'est-à-dire peinture, fresque, sculpture, le Christ. Peut-on représenter le Christ? Les uns disent oui, bien sûr. Bah, pour le culte des fidèles, ça favorise la piété, la prière. Ce sont ce qu'on appelle les iconodules, c'est-à-dire ceux qui vénèrent les icônes. Il y a un pas mal de jargon, hein. Et les autres disent, les adversaires, les iconoclastes donc, disent, mais bien sûr que non. On ne peut pas peindre le Christ parce que c'est un interdit biblique. On ne saurait peindre la divinité en Jésus. Si on peint Jésus, on ne peint que son humanité, pas la divinité. Or, on vient d'avoir des conciles œcuméniques qui nous disent que ce n'est pas possible de dissocier les deux. Donc, on ne peut pas peindre d'icônes. Les iconoclastes. Alors, bon, allez, je viens de vous expliquer la question, mais honnêtement, est-ce que c'est si grave que ça? Voilà, j'ai dit que c'était une grave crise, mais bon, le motif n'est quand même pas très grave, hein. Et pourtant, c'est une crise. Même si elle n'est pas grave théologiquement, elle est très importante. Pourquoi? Eh bien, elle est importante pour trois raisons que je vous mets ici sur le plan. La violence qui s'y est déclenchée, l'islam naissant et, en fait, vous l'avez compris, c'est un retour de la question christologique, qu'on croyait réglée avec les conciles œcuméniques. Et donc, il en a fallu un septième et dernier, Nicée II. Donc voilà. Voilà la raison pour laquelle c'est important. Alors allons voir, donc, je vais exposer un peu ces violences, l'islam et la question christologique. D'abord, c'est important à cause du nombre des victimes, en effet. C'est ahurissant pour nous aujourd'hui, hein, que, une question comme ça ait fait des victimes. Parce que ça paraît secondaire. En fait, il y a eu deux vagues déferlantes, 730-770, quand même, une quarantaine d'années, hein. Puis ensuite une autre de 813 à 843. Une des premières raisons de cette violence, animosité puis violence, c'est que l'empereur Léon III, l'empereur de Byzance, veut clairement réduire l'aura des moines. Grand promoteur d'icônes. Pourquoi veut-il réduire l'aura des moines? Eh bien, c'est tout simplement parce que il représente, les moines représentent une caste, si vous voulez, un groupuscule qui s'oppose à une autre caste aristocratique militaire à Byzance. Et l'empereur Léon III veut en quelque sorte flatter, favoriser la caste militaire. Et pour ça, il veut amoindrir l'aura, l'importance des moines sur la population, l'autre classe. Et donc, il va prendre comme prétexte que les moines peignent des icônes, que c'est interdit, donc qu'il faut en quelque sorte les limiter. Bon, à la limite, ça aurait pu en rester là avec Léon III, mais il a un fils, et lui, le fils, Constantin V va pousser encore plus loin les feux parce qu'il va commencer des persécutions de moines, toujours un peu avec le même projet sociopolitique. Pas vraiment, c'est pas vraiment des gens qui défendent le fait d'interdire la représentation de Dieu. En fait, c'est inimaginable hein, et incompréhensible la violence qu'il y a eu à cette époque. On exile, on tue. On emprisonne, on déporte. Enfin, c'est incroyable. L'année 783 est particulièrement terrible et violente. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nombre d'artistes viennent se réfugier en Occident, chez nous. Et donc, on va recevoir, dans les années 780, chez nous, un certain nombre d'artistes byzantins. Et c'est comme ça qu'en Occident, on va avoir la première influence de l'art byzantin chez nous, en France, en Allemagne, en Italie. C'est comme ça, par exemple, que nous viennent les Christ Pantocrators, qui sont sculptés dans l'architecture romane, ceux qui apparaissent en fresques, etc. En 787, une impératrice, vous la voyez sur cette photo, Irène, calme le jeu. Et donc, ouf! En respirant enfin. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Quelques années après, elle inverse la persécution. Alors qu'avant, on persécutait ceux qui peignaient les icônes, voilà que tout d'un coup, elle veut, elle, s'en prendre à ceux qui ont persécuté les moines. Et c'est reparti. C'est reparti avec de la violence. On persécute cette fois-ci les iconoclastes, c'est-à-dire ceux qui ont rejeté le culte des images et ceux qui fabriquaient des icônes. Du coup, deuxième vague de migration, et cette fois-ci viennent se réfugier chez nous, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en France, des iconoclastes. Voilà, vous me suivez toujours? Or, Théodulfe va recevoir chez lui un groupe de réfugiés, dans sa villa de Germanie. Il réfugie, il protège des artistes iconoclastes. Artistes iconoclastes. Comment c'est possible ça? Bah, les iconoclastes refusaient de dessiner la figure du Christ, mais pour autant, Il ne renonçait pas aux décorations, aux formes architecturales, etc. Et donc, il y a des artistes iconoclastes qui ornent les églises, mais avec des sujets abstraits, des croix, des motifs géométriques, etc. Nous allons voir ça dans une minute. Toujours est-il que la question théologique qui est derrière, ce qui paraît quand même un peu léger, provoque le concile de Nicée II en 787. Et c'est donc, comme je vous l'ai dit, le dernier concile. Nous allons voir ça dans un instant. On croit donc que les choses avec Irène s'apaisent. La paix est en effet revenue. Elle déclenche quand même une vague d'arrestations. Bon. Mais la paix revient. Il y a le concile. Et, manque de chance, ça repart en 813, à cause d'un empereur encore. Hein. À nouveau un empereur qui veut, à nouveau, pour les mêmes motifs, hein. Il veut favoriser les familles aristocrates guerrières, militaires, au détriment des familles aristocrates ecclésiastiques. Parce qu'il y a des familles tout aussi aristocrates qui fournissent des évêques, des abbés, et lui prend le parti des militaires, en gros. Un peu comme, si vous voulez, Donald Trump prend le parti des exploitants miniers et pétrolifères, au détriment des autres. Donc voilà, c'est ça qui se passe, quoi. Mais hop, c'est reparti, persécution. Et là encore, c'est à nouveau une femme, Théodora, impératrice, qui va mettre la paix. Les persécutions dans cette deuxième période sont moins dures, parce que les gens étaient épuisés par la première vague. En tout cas, en 843, Théodora y met fin, et cette fois-ci d'une manière définitive, et plus personne ne sera persécuté, ni les iconoclastes, ni les iconodules. Voilà, donc on n'en fait plus un sujet, de violence ou d'excommunication mutuelle. Donc voilà, ça c'est la première chose qui dit que cette crise est importante, parce que ça a fait des victimes, parce que c'est très violent. Deuxième point, c'est évidemment que pendant que les grandes familles byzantines, qui pourtant auraient pu fournir des colonels de régiments et des généraux pour les armées byzantines, pendant que les grandes familles byzantines, qui pourtant auraient pu, dans les grandes familles aristocrates qui fournissaient des ecclésiastiques, qui auraient pu entretenir une administration un peu vigilante, pendant que tous ces gens-là sont occupés à se crêper le chignon, eh bien l'islam l'emporte partout. Voilà, l'islam est né et l'emporte partout. Dès la mort de Mohammed, en 632, ça commence en effet très fort. La Perse d'abord est occupée, quasiment sans résistance, puis l'Égypte, puis la Syrie. Mais dans les années qui nous occupent, il va aussi y avoir, dans les familles dirigeantes de l'islam, il va aussi y avoir des querelles. Or, si l'Empire avait été un peu vigilant, il aurait profité de ces querelles pour arrêter là l'expansion de l'islam. D'autant que cette expansion se faisait à son détriment. Nous perdions, enfin si j'ose dire nous, l'Empire byzantin perdait des provinces. Et donc quand ils ont commencé à se fracturer, alors quand ont-ils commencé à se fracturer? Ben, il y a eu d'abord le prophète, ensuite il y a eu ses successeurs qu'on appelle les Omeyyades. Après les Omeyyades, il y a eu un coup de force incroyable en 750, les Abbassides prennent le pouvoir, quittent Damas et vont s'installer à Bagdad. Et c'est là que commencent les scissions avec l'Égypte, avec ce qu'aujourd'hui est la Terre Sainte, Israël qui fait scission, et Bagdad. Il fallait profiter de ça pour renverser la tendance. Mais les Byzantins étaient occupés à autre chose. Donc vous voyez, à tout péché, conséquence. La troisième raison pour laquelle j'ai dit que cette crise était importante, c'est le retour de la question christologique. Alors, c'est ça qui va nous intéresser. Augmentée, si j'ose dire, d'une affirmation très étonnante, qui va beaucoup nous intéresser aussi, celle du salut de la matière. Vous allez voir comment. Ça va émerger deux fois. Alors, auparavant, on va aller jeter un petit coup d'œil sur la mosaïque de Germigny. La voici. Alors, on s'étonne. Est-ce que c'est bien iconoclaste? Parce qu'il y a des personnages. Et oui, il y a des personnages, mais ce sont des anges. Et donc, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas la Vierge Marie, ce n'est pas les saints. Ce sont deux anges que nous voyons. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'islam, on peut peindre des anges. Par exemple, Erdogan, qui a récupéré Sainte-Sophie, qui était devenue un musée sous Mustafa Kemal, Erdogan a fait voiler la grande image de la Théotokos. Maintenant, vous savez ce que c'est, la Théotokos, la dernière fois. Il l'a fait voiler, mais dans les pendentifs de la coupole, sous la coupole, il y a des énormes anges. Ben, ceux-là, il les a laissés. Et dans l'islam, les anges, ça va, parce que les anges, c'est une espèce de figuration d'esprit. Donc voilà, on peut représenter l'esprit sous forme de nuage ou d'ange, peu importe. On sait que ce n'est pas un homme. Ce qui est interdit, c'est de représenter le prophète ne sera jamais, jamais représenté en fresque. Dans une mosquée. Donc voilà. Alors on voit deux anges et une caisse. Voilà, je vous laisse regarder. L'iconoclasme ne veut pas supprimer toutes les images, bien sûr. Ben, je vous l'ai dit. Mais il veut interdire, comme dans l'Ancien Testament, les images de Dieu le Père, mais également de Dieu le Fils, puisqu'il y a eu un concile, il y a eu des conciles œcuméniques qui ont affirmé à toute l'Église que Jésus-Christ était vrai Dieu et vrai homme. Donc, vous voyez, les iconoclastes ne veulent pas représenter le Christ. Mais par contre, je sais pas, la hiérarchie céleste, les anges, les archanges, des allusions à des scènes de l'Ancien Testament, aucun problème. Et donc, ici, vous voyez quoi? Vous voyez une trinité qui bénit l'Église. Ah, ça alors, c'est assez curieux, hein? Une trinité qui bénit l'Église en tant que celle qui va délivrer la bénédiction émise par la trinité. L'Église devient en quelque sorte le pontife de la bénédiction de Dieu, laquelle est déjà intradivinitaire, c'est-à-dire, si vous voulez, la générosité de Dieu, on le verra la prochaine fois, ça, est donnée au monde par le biais de l'Église. Donc le cercle vient épouser le carré. Voilà. Et donc vous avez la Trinité et une caisse qui est l'Église. Alors en fait, gros plan, l'Église est figurée par l'Arche d'Alliance, telle qu'elle est décrite dans l'Exode. Or, dans l'Exode, l'Arche d'Alliance, on nous dit que c'est une caisse qu'on peut promener en procession. Donc là, vous voyez les barres pour porter la caisse de l'Arche d'Alliance, comme c'est marqué dans l'Exode. Vous savez, où on démontait la tente pour se trimballer, puis après on allait poser plus loin, et donc on trimballait l'Arche. Même David l'a fait pour finalement installer l'Arche dans une maison privée. C'est son fils Salomon, hein, qui installera l'arche dans le temple de Jérusalem, et ça ne bougera plus. Et donc là, vous avez une caisse avec des barres pour le porter, des séraphins sculptés dessus pour garder cette arche. Et à l'intérieur de l'arche, nous dit le livre de la Genèse, il y avait les tables de la loi et de la manne. Il y avait la parole et la nourriture, le pain venu du ciel. C'est l'image de l'Église. L'image de l'Église quand elle célèbre l'Eucharistie, qui porte en elle-même, pour le donner au peuple chrétien, la parole de Dieu et le pain eucharistique. Et donc, vous voyez, dans l'image de la Trinité est assez lisible. Je vais faire un gros plan à nouveau. Voilà. Ben, il y a deux personnages, vous allez me dire, il n'y en a pas trois. Ben oui, mais il y a la main du Père. La main qui est là signifie le père. Ça, c'est un classique. On est au 8e siècle, et ça, il y avait déjà ça à Rome. Hein. On faisait déjà la main du père. Jamais, jamais on représente le père, vous savez, un grand barbu, comme on le fera plus tard. Et donc, la main. Donc, vous avez trois personnages. Voilà, il y a trois personnages. Mais ce qui nous a mis la puce à l'oreille, à ceux qui ont fait des recherches, regardez bien, il y a une différence entre les deux auréoles des deux anges qui sont quand même très jumeaux. Celle de gauche n'est pas tout à fait celle de droite. Alors, je vais vous la mettre, celle de gauche, en gros plan. Vous regardez l'auréole et vous dites, tiens, il y a des petits défauts dans l'auréole. Des petits bâtons. Des petits traits d'ombre. Et donc, c'est un signal iconographique très connu, c'est une règle de canon byzantin, qu'on retrouve aujourd'hui encore dans les icônes, hein, que je souligne. Un nimbe cruciforme, marqué de traits rouges, la croix qui est inscrite dans l'auréole, c'est ça un nimbe cruciforme, une croix inscrite dans l'auréole. Et surtout quand c'est tracé, la croix comme ça est tracée de rouge, c'est toujours le signal du Christ. Je vous ai déjà montré, vous savez, même à Chartres, quand on veut montrer la création, on a l'impression que c'est Jésus. Parce qu'il y a un nimbe cruciforme. Je vous avais montré ça aussi dans des mosaïques de Ravenne. Et donc, il y aurait le Père, la main, le Fils, à gauche, et l'Esprit, à droite. Théodulfe est lui-même assez réticent à la pseudo-représentation de Dieu. Il a en fait une tendance iconoclaste. C'est la raison pour laquelle il a réfugié des iconoclastes. Alors, ceci dit, un peu avant, il n'avait peut-être pas le pouvoir, 30 ans ou 40 ans avant, il n'avait peut-être pas le pouvoir, il était tout jeune, de réfugier qui que ce soit. Mais autant il n'aimait pas trop le culte des images, on va essayer d'expliquer pourquoi, autant il n'a jamais compris non plus l'excès de violence des empereurs byzantins. Ça, il n'a jamais admis. Et nous, on a été complètement épargnés en Occident par cette querelle. Les Carolingiens consultés pendant la crise iconoclaste vont confier à Théodulfe, parce que les Carolingiens ont été consultés par Byzance. C'est très intéressant, hein. Ils se sont bien rendus compte qu'on glissait sur des questions théologiques où il fallait consulter l'ensemble de l'Église. Ah, donc on consulte Théodulfe et on consulte le pape. C'est ce qui a fait le concile Nicée II, et là on remet le couvert. Et donc il y a eu un concile à Francfort, je vous en parlerai dans une minute, où Théodulfe est intervenu. Alors je vous montre pour finir l'église de Germigny qui a été augmentée. Là où j'ai pris la photo, je suis dans une nef, parce qu'on a ouvert ce côté-là de l'église pour ce collé contre une nef au XIXe siècle, parce que l'église était devenue paroissiale. C'était un oratoire avant, un oratoire privé. Et alors, vous pouvez remarquer les luminaires. C'est une installation récente, enfin récente, d'une vingtaine d'années. Et c'est à l'imitation des luminaires qu'il y avait à Aachen du temps de Charlemagne. Sauf qu'aujourd'hui, bien sûr, ce sont des LED qu'il y a dedans, avec un variateur d'intensité, et non plus des bougies. Donc, c'est très bien fait, hein. Il y a des vitraux contemporains. Enfin voilà. C'est vraiment un lieu à visiter. C'est pas loin de Saint-Benoît-sur-Loire, qui là aussi, c'est un lieu à visiter. Alors maintenant, voyons voir le troisième point. Pourquoi j'ai dit que la crise iconoclaste était importante? Ben, c'est parce que ça remet le couvert sur la question qui nous intéressait déjà la dernière fois, la question christologique. Dieu, Jésus est vrai Dieu, vrai homme. L'irritation de l'empereur Léon III, mais donc surtout de son fils Constantin V, hein, vous vous souvenez, a deux raisons. La première est que les empereurs et les militaires veulent atténuer le pouvoir et l'influence des moines. Ceux-ci sont en effet très lettrés. Ils tiennent également ce qu'on va appeler bientôt l'université. On puise d'ailleurs chez eux les cadres de l'Empire. Ça agace beaucoup l'empereur et sa caste militaire. D'ailleurs, le fait d'aller puiser chez les moines les cadres de l'administration, c'est également ce que fera Charlemagne. De plus, les moines favorisent le culte des icônes parce qu'ils prêchent dessus, ils encouragent la piété populaire à partir des icônes, et enfin, ils les peignent eux-mêmes. C'est eux qui peignent les icônes. Et ils en font commerce. C'est-à-dire, les moines isolés dans les monastères en vivent du commerce des icônes. Tout ça va donc être le prétexte pour les empereurs et la caste des officiers de s'en prendre aux moines par cette crise iconoclaste. La seconde raison, je vous disais, il y a deux raisons hein, de l'irritation, c'est que, qui va servir de prétexte elle aussi, c'est qu'en effet, un certain nombre de pratiques superstitieuses s'étaient développées dès le 7e, 8e siècle autour des icônes. D'abord parce qu'on se mettait à croire à quelque chose de magique dans l'icône elle-même, ce qui détournait les gens d'un vrai culte, d'un authentique culte rendu à Dieu et au Christ. Et il y avait même des comportements très idolâtres, hein, magiques, superstitieux même. Par exemple, on faisait dormir quelqu'un malade, un enfant malade, sur une icône. Vous voyez, on mettait une icône au sol et on posait le gamin dessus, et le gamin dessus était censé guérir. Enfin, vous voyez, c'est des trucs assez ridicules. Même pire, on a été jusqu'à. Alors, est-ce que ce sont des racontars amplifiés par les adversaires? C'est possible. Mais enfin, nous avons des textes où on nous dit qu'on a arrêté un atelier d'icônes parce que les gens qui peignaient cette icône avaient une réputation de sainteté. Et donc l'icône elle-même était, toutes les icônes qui étaient produites étaient miraculeuses. Et quand vous aviez votre grand-père qui était malade, qui avait la bronchite, eh bien vous grattiez avec une pointe de couteau les pigments de l'icône pour la faire tomber dans la soupe et ça guérissait le grand-père. Ah, bon, voilà. Alors, ça, ouais, donc des histoires comme ça traîne. Les moines font semblant de croire que ça n'existe pas. Ils font semblant de croire, de ne pas voir. Mais en fait, oui, ça existait. Ça existait, ces superstitions. Et donc, voilà les prétextes de la crise. Avant Nicée II, un concile œcuménique avait déjà interdit, un concile local avait déjà interdit à Byzance les icônes. Mais on va voir les arguments. Les arguments pour lesquels on peut interdire, enfin, on va essayer de comprendre pourquoi on peut interdire les images. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, mais enfin, mec, quelle drôle d'idée. Parce qu'on est dans une culture de l'image. Mais à l'époque, il y a quatre raisons. Quatre arguments, donc le titre est Les arguments des iconoclastes. Vous vous souvenez ce que c'est qu'un iconoclaste? Et ça sonne bien comme casser les images. Et puis, il y aura des réponses. Alors, allons voir d'abord les quatre arguments des iconoclastes, et vous allez voir, c'est très intéressant. Premier argument, bah, je l'ai rappelé tout à l'heure, il est fondé sur la Bible, bien sûr. C'est même dans le Décalogue, dans Exode chapitre 30 et dans Deutéronome 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Bon, jusqu'à là, tout va bien, une icône n'est pas un Dieu. Tu ne te feras aucune idole. Aucune image de ce qui est là-haut, dans les cieux, en bas, sur la terre, ou dans les eaux, par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Et donc quand même, vous voyez, dans le Décalogue, il y a bel et bien l'interdit de faire des images. Le mot y est, quoi. De faire des images de ce qui est dans les cieux. Voilà. Et encore moins de se prosterner devant elle. Donc voilà, ça c'est le premier argument. Il est évidemment. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Eh bien oui, nous devons nous protéger. Dans le culte des images, nous devons nous protéger de la superstition et de l'idolâtrie, bien sûr. On est d'accord. Donc voilà, ça c'est le premier argument. Second argument, un peu plus intéressant. Consiste à dire que si on représente le Christ qui est Dieu, On circonscrit dans ce qui est visible, un corps physiologique, ce qui est inexprimable, Dieu lui-même. La présence du Christ comme fils de Dieu, en tant que fils de Dieu, n'est pas représentable, disent-ils. Si vous peignez l'allure physique de Jésus, vous ne dites pas sa divinité, mais l'allure physique qu'il avait. Or, on ne peut peindre que l'allure physique de celui-ci. Et donc, on dissocie, l'icône dissocie en Jésus le fait qu'il soit vrai Dieu et vrai homme. Parce que dans une icône, on ne peut pas rendre présent la divinité, mais la physiologie. Donc là, l'argument est assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a répondu? Parce qu'à l'époque, il y avait déjà des réponses, bien sûr, hein. Les Byzantins sont des spéculatifs. Eh bien, la première chose qui répond, c'est très intelligent, on s'en sert encore aujourd'hui, hein. Tout visage est une énigme. Et donc, vous avez beau prendre quelqu'un en photo, et une belle photo noir et blanc d'un visage de quelqu'un, si vous faites ça par un artiste. Mais vous verrez que, alors évidemment, je ne vous parle pas des photographes qui bombardent pendant les soirées mondaines des mariages, hein, qui font moult photos. Bon. Non, non, je parle de ceux qui travaillent leurs photos, qui, eh ben, ils arrivent à faire exprimer, dans quelque chose qui est quand même pourtant complètement physiologique, un mystère, une énigme, un sentiment, une croyance, une émotion. Et vous voyez, un bon artiste représente, est capable de faire naître la compréhension de l'incompréhensible. Voilà. Et donc, les Byzantins eux-mêmes ont cet argument. Ils disent, mais regardez, non, non, regardez, tout visage est une énigme. Parce que ça reste bien insaisissable. Ce n'est pas un portrait. Et donc, vous avez le deuxième grand argument des Byzantins, c'est de dire, mais nous ne peignons pas la physiologie. Là, je vous montrais Rembrandt. Rembrandt, c'est avec une exactitude du visage. Mais les Byzantins répondent, ils ont un deuxième argument très fort. Ils disent, nous ne représentons pas le visage naturel. Nous le faisons toujours dans une abstraction qui répond à des règles canoniques, géométriques, mathématiques, harmonieuses. Ce qui nous intéresse, c'est pas la réalité du visage, la physiologie du visage de Christ. Est-ce qu'il avait des cheveux longs, les cheveux courts? Est-ce qu'il était peigné en brosse? Est-ce qu'il était punkies? Est-ce qu'il était blond, brun? Ça ne nous intéresse pas. On a des canons, et pourquoi avoir des canons? Parce que c'est des proportions. Et les proportions, ce sont des idées pures dans le platonisme. C'est-à-dire, ça relève de l'esprit. Donc voilà, vous voyez, c'est. Alors bon, peut-être que vous connaissez les canons byzantins. Le module, c'est le nez, c'est-à-dire le souffle, la respiration. Ce module-là, vous multipliez par deux, vous avez la largeur des yeux. Vous multipliez encore par deux, vous avez le volume absolument pas naturel de la chevelure et le bas du menton. Et donc voilà, et maintenant que vous avez ce grand cercle, vous le reportez trois fois, vous avez la hauteur du Christ Pantocrator. Vous le portez deux fois dans la largeur, vous avez sa largeur. Voilà. Et donc, vous voyez, une icône répond à des canons, disent-ils. C'est pas du tout, nous ne trahissons pas, nous essayons pas de saisir quelque chose de la physiologie, ou nous ne réduisons pas Dieu à l'aspect physique de Jésus, puisque ce n'est pas son aspect physique. C'est, ça ressemble à un visage transfiguré. Donc voilà, ouais, c'est le deuxième argument et sa réponse. Le troisième argument des iconoclastes, plus faible, mais très intéressant, vous allez voir. Continuellement présent dans les esprits religieux, c'est, il faut bien l'avouer, un dégoût pour la matière. Les iconoclastes disent, mais enfin, vous vous prosternez devant une planche peinte avec des pigments qui sont de l'écorce broyée, des pollens, des terres, et de la glaise. Et vous mélangez tout ça pour le faire adhérer à la planche, à du jaune d'œuf. Mais enfin, et vous dites c'est Dieu. Vous dites que ça représente Dieu. Mais enfin, quelle horreur. Vous voyez l'argument. L'argument est très singulier. C'est trop charnel. Et il y a un dégoût pour les iconoclastes, pour ce côté, comment peut-on vénérer la matière? Alors ça, c'est un super bon argument, hein. Et nous allons voir quelle réponse, hein. La réponse, ce sera toute la tradition chrétienne. C'est l'idée de répéter que non, la matière n'est pas répugnante. Que la matière n'est pas la prison de l'âme. Nous ne sommes plus néo-platoniciens. Mais la matière a été voulue par Dieu. Et donc qu'elle soit pénétrée d'esprit, ça nous étonne pas. Donc voilà la réponse, hein. Alors, quatrième argument, alors celui-là, il est complètement génial. Et les deux, l'argument 2 et 3 sont un petit peu philosophiques, mais le quatrième est complètement génial. Ils disent, les iconoclastes, hein, toujours, ils disent, la seule icône possible, c'est la charité. La seule icône vraie, c'est la charité. Vous voulez montrer Jésus? Soyez fraternel. Pratiquez la charité. Waouh! Ben ça, évidemment. Alors là, on ne peut pas répondre à ça. Oui, bien évidemment. On est d'accord. Voilà. Sauf qu'il faut peut-être éviter de dire la seule icône possible. Voilà. Il faudrait plutôt dire c'est la meilleure. Mais ça n'empêche pas les autres. Mais la meilleure icône du Christ, qu'il rend même présent, hein, c'est la charité. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même un très beau débat, hein. Alors, il y a ensuite, avec ces quatre arguments iconoclastes, il y a les défenseurs, les iconodules. Et donc là, vous avez deux types de discours, un en Occident, ça c'est intéressant, alors, parce que la question nous a été posée, et l'autre en Orient, avec Saint Jean Damascène. Voyons d'abord les Latins, nous. Depuis un moment déjà, les Carolingiens sont interrogés par cette querelle d'Orient. Je vous ai dit que Théodulfe lui-même a été consulté. Mais en Occident, on n'en mesure pas vraiment l'enjeu. Toutes ces querelles byzantines, en fait, ne nous intéressent pas. Charlemagne, il dit, écoutez, ces histoires de pigments, de jaune d'œuf, enfin bon, moi je fais la guerre, j'ai autre chose à faire, quoi. Donc voilà, c'est en gros, c'est à peu près ça. En fait, l'Occident essaye également d'imposer la primauté de Rome. Et donc, il n'avale pas très bien non plus le fait que les Byzantins aient rejeté avec mépris le titre d'empereur d'Occident à Charlemagne. Et toutes ces questions sont en germination pendant la crise iconoclaste. Et, à vrai dire, l'Occident va plutôt chercher des poux dans la tête de l'Orient, des Orientaux, plutôt que d'apaiser les choses. Par exemple, vous avez une question dont vous avez entendu parler, qui est une broutille, qui est une paille, une poussière. C'est la question du filioque. Ben, ça date de là. Et le filioque, c'est quoi? On dit que c'est Charlemagne qui l'a imposé, mais en fait, bon, c'est la gouvernance de Charlemagne. Pour casser les pieds à Byzance, pour leur chercher des poux dans la tête, le filioque, c'est quoi? C'est il procède du père et du fils. Filioque et du fils. Ce que les Byzantins ne veulent pas. Eux, ils disent l'Esprit Saint procède du père par le fils. Oh, bah alors, il y a vraiment de quoi se faire des querelles, hein. Il procède par le fils ou il procède et du fils. Enfin bon, vous voyez bien que c'est assez ridicule. Le pape, lui, il reste par rapport à la crise iconoclaste, il reste un peu distant et par rapport à la querelle Orient-Occident, il reste également assez prudent. L'entourage de Charlemagne l'est moins, bien sûr. Concernant les images, il y a d'un côté, la position de Théodulfe, et de l'autre, Théodulfe, je vous rappelle, il est plutôt iconoclaste. Mais il y a une autre position, c'est celle d'un synode local réuni à Francfort en 794, c'est-à-dire en gros 7 ans après Nicée II. C'est-à-dire 7 ans après Nicée II, où on a réglé le problème de l'iconoclaste, on a mis un point final, c'est le dernier concile œcuménique. 7 ans après, on réunit à Francfort un concile local pour en débattre encore et pour donner des arguments définitifs. Alors c'est très intéressant. On en conclut que c'est une erreur pastorale de détruire les icônes, mais encore plus de les faire vénérer. Ah, la formule est pas mal, hein. Donc c'est une erreur pastorale, c'est-à-dire c'est pour des raisons pastorales, c'est-à-dire pour émouvoir les gens, pour fixer la piété. C'est pour des raisons pastorales qu'on aurait tort de détruire les icônes. Mais on aurait encore plus tort, dit-on en Occident, de les faire vénérer. Or, le mot vénérer n'est pas compris en Occident comme en Orient. Quand un oriental dit vénérer une icône, il ne dit pas adorer. Et nous, on n'a pas cette subtilité. Et donc, on dit que c'est une erreur de faire vénérer les icônes. Mais les Byzantins font vénérer les icônes sans les faire adorer. Ah, et une petite nuance, hein, c'est super intéressant. Les théologiens carolingiens limitent l'efficacité. Alors, du coup, ça va nous permettre, nous obliger à en parler. De cette question, qui pour l'instant ne nous intéressait pas, on va limiter du verbe limite, du mot limite. On va limiter l'efficacité des images à deux aspects. Premier aspect, elles entretiennent la mémoire de ceux qui nous précèdent, les saints, et des événements dont ils sont des acteurs, la charité. Et donc voilà, c'est le but numéro un. C'est d'entretenir la mémoire dans la piété. Et donc, à propos d'une statue, d'une peinture, on va se mettre à raconter, mais ça, le cathé marchait comme ça, on racontait l'histoire de tel saint. Et donc, ça fixe la mémoire de la charité de ceux qui nous précèdent. Le second aspect est la reprise de l'argument de Grégoire le Grand, un pape. Pape dans les années 600. Donc ça date, hein. Il y a 150 ans. Dans les années 600, il y avait déjà eu ce problème à Marseille avec un évêque qui s'appelait Cérénus. Et le pape d'alors, qu'on appelle Grégoire le Grand, parce qu'il a beaucoup écrit des textes qui font autorité, écrit à Cérénus. Et quand on réunit à Francfort un concile local, ce sont des érudits qui viennent. Et il y en a un qui se souvient que Grégoire le Grand, donc un pape qui fait déjà autorité 150 ans après, a écrit là-dessus. Et donc voilà ce qu'il dit, le pape Grégoire, et ça va faire autorité. En gros, ce texte-là va faire autorité. J'ai appris, dit-il, il y a longtemps, que voyant quelques personnes adorer les images de l'Église, donc adorer, vous voyez, adorer les images de l'Église, vous les aviez brisées et jetées dehors. Les images, hein, pas les gens. Je loue votre zèle pour empêcher que ce qui est fait de main d'homme ne soit adoré. Vous voyez, il dit, on ne peut pas adorer une image. Car on met des peintures dans les églises afin que ceux qui ne savent pas lire voient sur les murailles ceux qu'ils ne peuvent apprendre dans les livres, parce qu'ils ne savent pas lire. Vous deviez donc les garder, les images, et détourner le peuple de péché en adorant la peinture. Donc voilà, vous voyez, c'est un texte de Grégoire qui est très précis, hein. Donc il dit oui pour des raisons pastorales, notamment pour éduquer le peuple, si vous voulez, ceux qui sont illettrés. Vous savez, c'est la catéchèse, la fameuse catéchèse des illettrés. Propos qu'on prête à Grégoire le Grand. Et surtout, il dit il faut éviter de les adorer. Donc, pas de gestes de superstition, pas de prosternation, etc. Alors, ça, c'est quand même très intéressant. Et alors, évidemment. La catéchèse, quand il dit que la catéchèse sert à ceux qui ne sont pas lettrés, eh bien, en effet, il y a toujours eu, dans l'Église, il y a toujours, dès qu'il y a eu des images, il y a eu également des gens pour expliquer les images. Parce que vous pointez, vous n'êtes pas illettré, vous pointez devant le tympan de Conques, ici. Eh ben, vous êtes bien incapable de comprendre quoi que ce soit. Mais il y avait Un siècle après Charlemagne va commencer le pèlerinage de Compostelle. Et nous savons, parce qu'on a plein de textes, que sur le chemin de Compostelle, à toutes les grandes étapes, Conques bien sûr, mais aussi Vézelay, Autun, Tournus, etc., il y avait des moines qui étaient des guides et qui faisaient de la catéchèse. Et très souvent, c'était la catéchèse de leur vie. Les pèlerins qui faisaient ça à pied, c'était la catéchèse de leur vie. Et ils passaient à Vézelay, parce qu'il n'y a quand même pas des églises de la qualité de Conques tous les 30 km. Hein. Mais en gros, tous les 2-3 jours, on pouvait faire une vraie pause d'une journée entière pour faire de la catéchèse autour des images. Et c'était fait. Et nous le savons ça parce qu'on a des textes qui nous le disent. Donc voilà comment marchait la catéchèse. À propos du culte des images, et pour en terminer avec l'Occident, on garde donc trois mots sur l'utilité bienfaisante des images. Il s'agit d'instruire, donc le pape Grégoire, de mémoriser et d'émouvoir. Et on n'est pas contre du tout les sentiments, l'émotion, la beauté. Bon, voilà, donc ça c'est pour l'Occident. Voyons voir maintenant l'argument pour l'Orient. Une série d'arguments nous viennent en effet d'un moine d'origine syrienne qui fut pendant un temps ministre du calife Omayyade et donc musulman. Il a même été son grand vizir. C'est la raison pour laquelle on représente avec cette coiffe. Hein. C'est pas parce qu'on fait des icônes d'un saint arabe. Il était syrien. Donc déjà, il n'est pas arabe, il est syrien. Et il était chrétien. Il n'est pas musulman, bien sûr. Alors après, il va se retirer quand le calife va changer. Il va se retirer dans un désert en Palestine. Il va devenir moine. Mais il portera toujours le nom de Saint Jean de Damas, Saint Jean Damasène. Et il écrit beaucoup. C'est un homme très érudit. Et il va prendre la défense des icônes. Et donc, il va être, lui, un iconodule contre les iconoclastes. Il va prendre la défense des icônes. Alors, ces arguments sont très intéressants. Et ils sont peu connus de l'Église d'Occident, mais évidemment très, très connus de l'Église d'Orient. Trois choses. D'abord, il distingue vénération et adoration. Ben, c'est plus subtil un grec qu'un latin. Vénération et non adoration. C'est-à-dire, on médite grâce au support la réalité qui est représentée. C'est ça la vénération. On médite grâce à un support la réalité qui est représentée. Le support lui-même n'est pas doté de qualités magiques ou thérapeutiques. Ouais, c'est bon, on va honorer l'objet, bien sûr, mais on va pas adorer l'objet. L'objet comme tel n'a pas de valeur. Ce qui a de valeur, c'est ce qu'il permet, la réalité qui est représentée. Premier argument. Deuxième argument, c'est le Christ lui-même, en se faisant chair, qui s'est en quelque sorte fait image du Père. Il le dit lui-même dans l'évangile de Saint Jean, qui m'a vu, a vu le Père. Et donc, vous voyez, on peut dire que Jésus-Christ est l'image du Père. Et donc, ce qu'il a fait peut être, doit être reproduit. Tout comme tout ce qu'est le Christ, tout ce que fait le Christ, tout ce qu'enseigne le Christ. Donc on peut avoir des images parce que c'est lui-même qui a commencé à en faire. Il est l'image du Père. Et enfin, troisième argument, peut-être le plus curieux. Par l'incarnation a eu lieu une véritable, dit Saint Jean Damasène, contre les iconoclastes, par l'incarnation a eu lieu une véritable sanctification de la matière. À partir du moment où Jésus s'est fait chair, la matière en est illuminée. On va le voir dans un moment. Ce que le Christ fait en venant dans la chair, c'est qu'il donne à la chair son salut. La matière peut être transfigurée, peut être sauvée. Donc voilà, c'est les arguments de Saint Jean Damascène concernant l'iconographie, l'icono du lit. Et cette idée, hein, va ouvrir, la dernière idée que je viens de développer, là, de vous présenter, va ouvrir évidemment de nouvelles voies quant au rapport de l'homme au monde, l'homme à la nature, l'homme au cosmos, l'homme à la matière, l'homme au sentiment, à la corporité, à la sensualité, etc. Bref, une nouvelle manière de penser les rapports esprit et matière. Et en fait, ça va être le salut. On n'aurait jamais dû perdre ce formidable équilibre qui a été donné là au 7e, 8e, 9e, 10e, 11e siècle dans l'Église à propos de la matière et du charnel. J'aborderai cette question-là que, vous voyez, avec le titre Liturgie cosmique. J'aborderai cette question tout à la fin de votre parcours. Au bout de 2 ans, vous voyez, vous aurez un cours de morale, c'est le dernier cours du parcours, mais la toute dernière séance, le directeur reprend la main pour faire en quelque sorte une séance conclusive de l'ensemble du parcours anthropologie, christologie, ecclésiologie, etc., anthropologie bien sûr, et liturgie et sacrement, sur le thème de la liturgie cosmique. Alors voilà, un grand truc byzantin qui n'a pas tout à fait été oublié en Occident, puisque un pape récent en a beaucoup parlé, le pape Benoît XVI. Donc on verra ça, suspense, hein, vous voyez, ah c'est formidable, suspense, vous verrez ça dans 1 an et des poussières. Oh, il va falloir attendre, ah ça va être dur. Mais voilà. Allez, on fait une petite pause si vous avez des questions avant d'aborder la deuxième partie. Voilà, si vous avez des questions, ne vous en privez pas.
Oui, excuse-moi, alors peut-être que j'ai du mal à attendre la fin la fin des 2 ans, mais j'ai
Oui.
pas bien noté ce que vous aviez parlé tout de suite, là, la nouvelle manière de penser l'esprit et la matière et le
Ouais.
lien avec le salut.
La matière, depuis que Jésus a pris chair,
Oui.
la chair est sanctifiée.
La chair est...
Et
Ah,
sanctifiée
d'accord.
puisque le
Donc
Christ est
comme la
pleine.
chair est sanctifiée... Ah oui, mais on va direct au salut parce que la chair est
Eh
sanctifiée.
bien, alors, on ne va pas direct au salut, mais le salut n'est plus, la chair n'est plus du tout ce que les néoplatoniciens disent, c'est-à-dire l'horreur, l'abomination, la séduction, la dégradation de l'esprit, pas du tout, puisque le
Oui.
Christ est venu l'habiter. Et d'ailleurs, on avait déjà cette idée-là à cause du mot même de Dieu créateur. S'il a créé les choses, bah c'est donc que les choses ne sont pas méprisables. Et donc, et cette idée-là, en fait, elle va être boostée par les arguments de Saint Jean Damas du fait de la crise iconoclaste. Voilà, c'est très intéressant comme thème. Mais donc, on le reprendra bientôt.
D'accord, merci.
Bonjour Père Bernard. Petite
Bonjour.
question. Oui, c'était pour savoir par rapport à adoration, vénération. Aujourd'hui, on parle de vénération, par exemple, pour des reliques de saints ou des choses comme ça.
Voilà.
Alors, quelle est sa valeur? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église latine fait bien la distinction entre adoration et vénération comme le faisaient les Byzantins, enfin en tout cas Saint Jean Damascène?
Ouais, alors on l'a fait, en effet, on a adopté ce vocabulaire. Donc, par exemple, on adore le Saint-Sacrement, mais on vénère une statue, on vénère une église, on vénère un autel, on vénère même un calice, c'est-à-dire on respecte. C'est une espèce quand même de... On ne dit pas la messe, par exemple, dans un verre à dents ou même dans un verre à table, quoi. On dit la messe dans un objet consacré, donc qu'on vénère. Si vous voulez, ça veut dire un respect religieux, qui ne veut pas dire un respect fétichiste, mais un respect quand même. Donc on ne dote pas l'objet d'un pouvoir magique, et là, ce serait de la superstition. Et donc, mais on le respecte. Donc on vénère les reliques, en effet, alors qu'on adore l'Eucharistie. La subtilité existe, ouais.
Je voulais vous poser la question du fait que finalement on dit que l'icône
est reconnu pour instruire, mémoriser, émouvoir? Est-ce que c'est une erreur
Oui.
de dire que l'icône peut être performative?
Ah oui. Oui. Elle est, oui, elle est efficace. Elle était même considérée jadis comme un sacramental. Ah, alors qu'est-ce que c'est qu'un sacramental? C'est quelque chose qui est pourvoyeur de grâce. Par exemple, dire le chapelet, aller visiter un malade, aller prier au cimetière, se signer devant un calvaire dans la nature, et vénérer une icône. C'était donc des sacramentaux, c'est-à-dire des choses qui sont pourvoyeurs de grâce. Alors, ce n'est pas du tout de la magie, hein, mais c'est le fait que la présence de Dieu vienne habiter des choses ordinaires de notre existence. Dire l'Angélus, par exemple. Alors, Saint Bernard, il en compte 72 de sacramentaux, et finalement, on les a oubliés avec le Concile de Trente, qui a instauré les sept sacrements. Et on s'est dit, écoutez, il faut vous contenter des sept sacrements. Et aujourd'hui, vous savez, quand le pape François parle de piété populaire, je pense, enfin j'espère, qu'il a ça derrière la tête. C'est-à-dire, je crois qu'il serait utile de rappeler la tradition des sacramentaux. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça habite davantage la quotidienneté. Voilà, c'est le matin, vous voyez, vous faites une petite prière, même machinale le matin, c'est un sacramental. Un bénédicité, c'est un sacramental. Et ça habite davantage la trame de l'existence chrétienne. Alors que le fait d'aller à la messe le dimanche, vraisemblablement, pourrait ne pas l'habiter. Donc voilà, et les sacramentaux, c'est très intéressant. Et alors en
Oui.
effet, l'icône est efficace.
Ok, merci.
Non, c'est fatigant, hein?
Mmh.
Mais on a encore une deuxième partie. Les deux tendances. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, l'Église a traversé, à l'époque où on définit les conciles, elle a traversé deux grands courants. Qui forcément l'ont plus ou moins marqué. Et il y a eu, ça c'est le premier point, et il y a eu, en gros, dans notre Église, en gros, pendant les sept premiers conciles œcuméniques d'une manière majeure, d'une manière qui va virer à la querelle, mais elle dure encore. Ces tendances-là durent encore. Alors, c'est quoi ces tendances-là? C'est. Soit vous là c'est la fresque de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, hein, bien sûr, sur le fond, le grand fond à plat, et non pas sur la voûte. Bon, c'est ridicule, on voit Dieu le Père, vous voyez, c'est interdit par un concile. Bon, voilà, bref. Et l'homme, Adam. Donc, d'un côté Dieu, de l'autre côté l'homme. Alors, une première tendance. Vous surdimensionnez en Jésus à la divinité de Jésus à un point tel que l'humanité s'efface. Alors là, vous allez avoir une tendance qui va dire, mais enfin, c'est pas. Vous vous souvenez, on a vu ça, là, je sais plus, il y a deux séances, avec le fameux patriarche de Constantinople qui disait, mais enfin, le Fils de Dieu ne peut pas avoir été circoncis. Oui, il disait des trucs comme ça. Alors voilà, c'est des gens qui ne peuvent pas comprendre que Dieu puisse connaître, je sais pas, les faiblesses de notre humanité. Que, je sais pas, il ait pu avoir du chagrin, qu'il ait pu se mettre en colère, qu'il ait pu avoir mal au ventre, enfin, etc. Donc il y a ceux qui, ouais, écrasent l'humanité au profit de la divinité en Jésus. Mais il y a l'autre tendance inverse. C'est ceux qui augmente le côté humain de Jésus au détriment de la présence de la divinité en lui. Par exemple, ils disent que dans l'homme Jésus, c'est l'âme qui est divine. Bon, voilà, vous voyez, c'est des choses comme ça. Et donc, vous allez avoir la crise des sept premiers conciles œcuméniques est traversée de ces deux grandes tendances. Mais en plus de ça, l'Église, le trait jaune que je vous montre, hein, c'est-à-dire l'histoire de l'Église trace son chemin en traversant deux immenses cultures très influentes qui vont beaucoup marquer ces querelles. Premièrement, la gnose. Deuxièmement, le dualisme. Alors, il faut expliquer un peu ce que c'est. Je reviendrai tout à l'heure, juste après avoir expliqué ça, le premier point que j'ai expliqué entre un grand Dieu et un petit homme, ou un grand homme et un petit Dieu. Mais expliquons d'abord ce que sont ces mouvements, qui sont en fait des univers mentaux, des cultures, on pourrait dire. Dans tout le bassin méditerranéen, il existe de la gnose. La gnose, c'est quoi? C'est un mouvement de pensée qui consiste à croire que l'esprit humain, l'intelligence, peut, si l'homme est initié, peut connaître le secret des choses, les lois du monde et même les mystères de Dieu. Donc si vous avez été initié, vous pouvez connaître, vous pouvez déchiffrer les mystères de Dieu et même les lois du monde. Vous voyez, on est dans un univers évidemment pré-scientifique. On pense bien qu'il y a des lois physiques au monde, mais on ne les connaît pas. Le grec gnosis veut dire en effet connaissance, gnose. Alors ce n'est pas spécifiquement chrétien, hein, bien sûr, parce que c'est un mouvement très général, mais ça va en influencer considérablement. Il va y avoir beaucoup de chrétiens gnostiques. Et alors, elle a un inconvénient, c'est qu'elle est, premièrement, dualiste, comme l'autre courant, mais elle est ésotérique. Ésotérique, ça veut dire quoi? Alors, attendez, je vais trop vite. Voilà, ça, c'est ça. Ésotérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire elle consiste à dire que rien de ce que nous voyons, éprouvons, constatons, n'est vrai. Il y a une vérité des choses qui n'est donnée qu'à certains. Voilà, ceux qui ont été initiés. C'est la connaissance, alors voilà ce qu'il y a de plus grave, c'est la connaissance qui fait le salut. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Et donc vous pouvez, par vos propres moyens, si vous avez été initié, si vous appartenez à la bonne secte, vous pouvez être sauvé. Le salut dépend de votre connaissance, la connaissance que vous avez du salut. Voilà ce que c'est que la gnose. Alors, cette connaissance est évidemment réservée à un petit groupe. Donc, seuls quelques-uns seront sauvés. L'un et l'autre, hein, le gnosticisme et dualisme, dualisme, vous voyez ce que c'est, hein, dualisme, c'est l'idée selon laquelle il y a deux principes divins. Dieu, le mal. Le mal a la même puissance que Dieu. Vous voyez, on est dans Harry Potter. Voilà, il y a vraiment. Alors ça, le dualisme a beaucoup sévi, hein, et évidemment, ça a donné comme conséquence la dualité en l'homme. En l'homme, il y a aussi un pouvoir tout aussi fort que l'esprit. Mais alors, c'est quoi ce pouvoir? Ben, c'est la chair, c'est le corps. Et voilà. Et on recommence avec ces perversions qui n'ont pas cessé d'habiter l'Église. Voilà, donc vous voyez, ça c'est le dualisme, et ça c'est l'ésotérisme, la gnose. Voilà, c'est un mouvement. Alors l'ésotérisme c'est également très compliqué, et c'est compliqué à souhait. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que vous puissiez, vous, qui n'avez pas été initié, comprendre. Alors que dans le christianisme, c'est tout le contraire qu'on veut. On veut que tout le monde comprenne. Il n'y a pas besoin d'être initié, ni même d'être baptisé. On peut comprendre parce qu'à vrai dire, le salut n'est pas d'abord une compréhension. Le salut, c'est d'abord une participation. C'est d'abord le fait de s'ouvrir à la présence de Dieu. C'est ensuite le fait de pratiquer la charité, d'écouter la parole de Dieu. Et il ne s'agit pas de décrypter les secrets de la parole de Dieu. Vous voyez, il y a une grande nuance, hein. Chez nous, la parole de Dieu est efficace. Chez eux, la seule chose efficace, c'est d'initier quelques-uns, l'élite, ceux qui auront les secrets du monde, de l'intelligence et de Dieu. L'un et l'autre de ces courants vont traverser, disons, vont habiter les grandes questions du christianisme. Alors voyons maintenant Maintenant que j'ai donné le cadre, hein, quand même, vous voyez, un cadre très encombré de différents mouvements. Voyons la tendance. Jésus n'est pas vraiment homme. Soyons sérieux, il n'est pas possible que Jésus ait eu mal aux dents, ait eu envie de griffer son copain sur la cour de récré. Enfin, tout ça, c'est pas possible. On a deux, pour faire simple, hein, on a deux, et là aussi, deux grands courants. La plus importante, c'est celle qu'on appelle le docétisme. Alors là, on va avoir des mots savants. Hein, bon. Le docétisme, du grec dokein, faire semblant. Ah, ça, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est-à-dire, en Jésus, Dieu aurait fait semblant d'être homme. On pensait, les apôtres pensaient que c'était un homme, mais non. Dieu faisait semblant. Il avait pris la semblance d'un homme. Et donc celui qui est mort sur la croix, c'est ça l'interprétation du prophète Mahomet, celui qui est mort sur la croix, c'est pas Dieu. Comment dire, l'image selon laquelle il s'est montré aux hommes. Il a fait semblant d'être homme, il n'est pas cet homme-là. Voilà, le docétisme. C'est assez curieux, hein? Et en fait, c'est une espèce de peur du réalisme de l'incarnation. Une espèce de refus complet en disant, mais c'est pas possible. C'est pas possible que Dieu, je sais pas moi, ait grandi et eu besoin de câlinothérapie quand il était bébé. C'est pas possible. Bon, voilà. Donc voilà, le docétisme, ça a été réfuté au concile de Chalcédoine, le quatrième concile de Chalcédoine. Plus tard viendront le deuxième courant, viendront un courant assez intéressant. Qui est le monophysisme. C'est quoi? C'est la nature humaine du Christ aurait cessé, donc la nature humaine de Jésus aurait cessé d'exister, elle aurait été dispersée, diluée, au moment où elle était assumée par la deuxième personne de la Trinité. C'est-à-dire Dieu, en se faisant homme, efface l'homme. Voilà. Et donc, en quelque sorte, le monophysisme dit, ben, un peu comme le docétisme, mais sauf que là, la divinité absorbe tout de Jésus, y compris sa corporéité. Donc il n'a pas souffert. Dieu ne souffre pas. Il n'a pas vieilli. Ah, voilà, c'est le monophysisme, ça s'appelle. Hein. Là aussi, le même concile de Chalcédoine en 451 a condamné ça. En fait, c'est l'idée selon laquelle Dieu prend un homme, adopte un homme, et le vide, il est énucléé. L'homme est énucléé. Il n'a plus son tempérament, il n'a plus son caractère. Dieu a emprunté un corps. Voilà. Donc ça, c'est un des mouvements. Et vous voyez que derrière, il y a une espèce de répugnance pour les réalités positives de la corporéité. Parce que on dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais vieillir, c'est pas un mal. Avoir besoin de câlinothérapie, c'est pas un mal. Donc voilà, c'est à l'inverse. Donc à l'inverse, il y a des hérésies, enfin des tendances qui diminuent la divinité en Jésus. Par exemple, alors c'est un petit peu plus subtil. Par exemple, avec l'arianisme. Alors arianisme, ça vient d'un monsieur qui s'appelle Arius, qui a été également condamné, disons, par le premier concile œcuménique. Donc c'est un des premiers à avoir douté des deux natures en Jésus, des deux natures authentiques, Dieu et homme. Arius considère que si le Père a engendré le Fils, l'existence de celui-ci n'est pas éternelle. C'est-à-dire, il n'est pas vraiment Dieu. Il est subordonné. Il est comme un messager de Dieu. Et il a été créé par Dieu en tant que son propre messager, son messager le plus intime, son missus dominicus, mais lui en tant que messager, mais pas vraiment lui. Et il est créé par Dieu comme on créerait un avatar. Le Fils est créé pour une mission. Et ensuite, quand il aura accompli cette mission, il retourne au Père, qui reste seul. Et donc, Arius fut condamné par le premier concile de Nicée, qui affirme, vous savez, il y en a une trace dans le credo de Nicée, dont on fête cette année les 1700 ans, qui affirme que Jésus est engendré, non pas créé. Et on dit ça, hein, consubstantiel au Père, consubstantiel au Père, de même nature que le Père, de même essence que le Père, c'est-à-dire il est Dieu. Il n'est pas un Dieu au rabais, il n'est pas une espèce de lieutenance de Dieu, il n'est pas un missi dominici. Voilà, donc il est engendré, non pas créé. Dieu n'a pas créé un avatar pour l'envoyer sur Terre. Donc voilà, c'est subtil, hein, mais bon, c'est des débats qui avaient lieu dans les premiers siècles. Et la deuxième tendance, elle est due à Nestorius, vous savez, qu'on a déjà rencontré au 5e siècle. Et vous vous souvenez que Nestorius avait déjà, lui aussi, des problèmes avec le réalisme de l'incarnation. Alors lui, il veut diminuer aussi la divinité en Jésus. Alors il explique en disant que c'est ce qu'on appelle le duophysisme. De nature physique. Jésus est une personne humaine, Jésus de Nazareth, c'est une personne humaine, conjointe à la personne divine. Et donc, vous voyez, la personne divine serait venue en quelque sorte se joindre à la personne humaine comme une espèce de schizophrénie, ou si vous voulez, de dualité en Jésus. Il y a d'une part l'homme, d'autre part Dieu. Ce sont deux figures juxtaposées, une sorte d'association avec partage de tâches, comme dans un binôme de policiers. Il y en a un qui verbalise et l'autre surveille. Voilà, et c'est... Alors ça, c'est Nestorius a eu cette idée-là. Hein. Vous vous souvenez, il n'aimait pas beaucoup l'histoire de la nativité. Que Marie était mère de Jésus, qu'elle avait fait des câlins à Dieu, enfin, c'est pas possible. Et donc, ça, c'est exclu par le concile de Nicée, d'Éphèse, qu'on a déjà vu. Pour conclure, et cette brève, très brève traversée, parce que vous imaginez que le nombre de débats qu'il y a eu, et vous voyez que c'est des débats sophistiqués quand même. Hein. Voilà, c'est quand même. Et c'est des vraies questions. Pour conclure cette traversée, les pères se sont entendus hein, pour dire qu'il y avait deux natures unies, sans confusion et sans séparation. Et pour répondre à Nestorius, les deux principes humains et divins ne sont pas séparés en Jésus. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de schizophrénie, mais il n'y a pas de confusion non plus, c'est-à-dire Dieu n'écrabouille pas les aspects humains. Et de même, les aspects humains ne sont pas une insulte pour la divinité. Et donc, il est vraiment Dieu et vraiment homme, deux natures unies en une personne. Et voilà que le vocabulaire de la personne va être complètement boosté dans la tradition de l'Église. Une personne, vous et moi, toute personne est quelque chose d'absolument complexe. Et c'est cette complexité qui fait sa réalité. Et bien pareil pour Jésus. On ne peut pas regarder dans Jésus-Christ que ce qui relève de sa nature humaine. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est bon, il est infiniment juste. Alors ça relève de sa nature humaine ou divine. Enfin oui, on peut pas faire ça. Et bien de même chez nous. Et dans un homme, si vous dites quand vous enterrez un brave homme de 83 ans, vous enterrez et vous dites, ah, c'était un ingénieur formidable. Mais qu'est-ce que vous avez dit de lui? Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose, quoi. Bien sûr, il était un ingénieur formidable. Mais quand même, Il était marié, il avait des enfants, il a rencontré des difficultés, il a lui-même été adolescent, il a été, je sais pas, moi, chef scout, il a eu, etc. Il a eu des difficultés amoureuses, il a été malade, il a été très généreux, il a été colérique, enfin, et c'est tout ça qui fait un homme. Et si vous dissociez, ben vous n'avez plus un homme. Et ben c'est pareil avec Jésus-Christ. Oui, c'est indissociable, ces deux aspects de sa plénitude, de sa vérité. Donc voilà, oui, c'est quelque chose d'assez important finalement à comprendre. Il faut bien reconnaître, hein, quand on est au séminaire, on est obligé de se taper les sept premiers conciles œcuméniques. Bon, moi je l'ai fait comme tout le monde, hein. C'est pénible. C'est pénible parce que c'est des querelles byzantines très subtiles. Donc là, je vous l'ai fait à grands traits, hein. Et donc, pour finir, on va aller visiter une petite. Oh, ce soir, je vais avoir un peu d'avance, c'est bien. Un lieu très intéressant qui est Ravenne. Alors, Ravenne aujourd'hui, hein, c'est une petite ville, enfin, une ville moyenne, au nord de la mer Adriatique. C'est pas très loin de Venise. Pas moi, 250 kilomètres peut-être. Et ce fut quand même une capitale de l'Empire d'Occident, très peu de temps. Par contre, c'était une capitale de royaume. La ville, vous savez, de sa période impériale, conserve l'étonnant oratoire de Galla Placidia, qui est presque tout aussi étonnant que celui de Théodulfe. L'oratoire de Galla Placidia, c'est de 430. On est vraiment dans l'Antiquité chrétienne. Et ça va devenir après, vers les années 500, ça va devenir la ville de Ravenne, une résidence secondaire pour les empereurs byzantins. Dans le siècle qui précède cette période, 540, ça devient une résidence secondaire. Donc le siècle qui précède, Ravenne fut tour à tour capitale du roi Odoacre, roi d'Italie, puis capitale de Théodoric le Grand, Ostrogoth, qui est un Ostrogoth, qui va devenir un très grand personnage et qui sera là une trentaine d'années. Odoacre est accompagné d'évêques conciliaires, tandis que Théodoric est arien. Il est arien. Ah, ça nous intéresse beaucoup. C'est-à-dire, il sépare en Jésus, il sépare la mission de la plénitude de la divinité. Vous savez, engendrer, non pas créer. Donc, Arius, arien, Théodoric dit, Jésus est le missionnaire de Dieu. Chacun, Odoacre et Théodoric, ont édifié un baptistère et une basilique. Celle que vous voyez ici en photo aérienne n'est pas de cette époque. Elle est du 9e, 10e siècle. Quant au campanile, il est du 12e siècle. Ouais, là, vous avez pas mal de périodes. Et ça, c'est du 5e siècle, le baptistère. Alors, ce qui est très marrant, c'est que ces différences théologiques, là, je vous ai dit, le premier roi, Odoacre, est, disons, on va dire catholique. Le second est arien. Eh bien, ça va se voir. Une différence théologique, ça va se voir dans les mosaïques. C'est ce qu'on va voir. Voici le plus ancien, 450, vous voyez, dit Noénien à cause du nom de l'évêque qui s'appelait Néon. Le pauvre garçon s'appelait Néon. Enfin voilà, c'est comme ça. Et là, vous le voyez, forme extérieure, c'est un octogone posé sur une base carrée. Et cet octogone porte au sommet une coupole, ouais, qui ne déborde pas vraiment, parce que la coupole vient s'appuyer dans l'épaisseur des murs de briques que vous avez ici, à peu près à la moitié du second étage. Les reins de la coupole viennent s'encastrer dans l'épaisseur du mur. C'est très bien fait. Voilà le plan. Donc vous voyez, on voit un carré au sol et un octogone tracé qui porte une coupole. Voilà. Et dans la coupole, il y a une mosaïque. Très étonnante, hein. C'est somptueux. C'est presque impérial, hein. On voit du lapis-lazuli. C'est de la mosaïque, hein, c'est pas de la fresque. En fond, avec les 12 apôtres. Et puis, au centre, le baptême du Christ. Que voilà. Ah, alors là, c'est très intéressant. Il y a plein de choses. D'abord, les personnages, vous avez Jean-Baptiste énorme. Vous avez peut-être remarqué, il y a une espèce de petite nuance dans le fond d'or. Vous voyez, on dirait qu'il y a un or un peu terne et un or un peu plus frais dans la partie haute, là où il y a la colombe. Eh bien, figurez-vous que cette partie-là, la partie la plus fraîche, est tombée. Elle est tombée au Xe siècle. Et donc, on a refait une mosaïque. Et regardez bien, maintenant que je vous ai dit ça, le visage de Jean-Baptiste, le visage de Jésus, mais surtout celui de Jean-Baptiste, n'est pas proportionné au corps. Vous voyez, il y a une petite erreur chez les artistes du Xe siècle qui maîtrisent à ce moment-là très bien la fresque, mais beaucoup moins la mosaïque. Même le visage de Jésus, maintenant que je vous ai dit ça, vous vous rendez compte qu'il est un tout petit peu trop enfoncé dans le cou de Jésus, si vous voulez. Et donc, voilà. Et l'auréole très flashy a probablement encore été rajoutée au XIIIe siècle. Il y avait probablement une auréole, mais on va le voir sur l'autre. Quant au personnage de droite, qui est tout à fait à droite, il s'appelle Jourdain. Bah oui, c'est le nom du fleuve. Et ce personnage qui est censé représenter le fleuve s'appelle Cosmos. Donc ça, c'est un truc qu'on reverra. C'est-à-dire les Byzantins ont la certitude que quand le Christ se fait homme, la matière elle-même est sanctifiée, ça je vous l'ai déjà dit. Et quand Jésus est baptisé, c'est lui qui baptise les eaux du Jourdain, et donc le cosmos. Donc voilà. Mais ce que vous remarquez sur cette image, c'est quand même, je ne sais pas comment le dire, mais enfin, Jésus, waouh, plutôt beau gosse, quoi. Ben, c'est un dieu. C'est un dieu grec. Il répond exactement au canon esthétique de la sculpture grecque. Et c'est par comparaison avec l'autre qu'on va comprendre. Voici l'autre. Bon, l'extérieur, c'est la même chose, hein, le plan, c'est le même. Mais voilà la fresque. Alors celui-là, vous voyez, c'est le baptistère arien qui veulent diminuer la divinité du Christ. Alors, de plus près. Donc le Fils, vous voyez, n'est pas de même substance que le Père. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment, il n'est pas pleinement Dieu. Il n'est que l'envoyé de Dieu. Voilà. Alors, gros plan. Ah ben là, c'est plus du tout le bel et faible grec, hein. C'est un petit bonhomme. Bon, on dirait, bah c'est ça, quoi. 35 ans, il a fait de bonnes études, il a un bon salaire, et donc il devient un petit peu grassouille, il fait plus beaucoup de sport, il s'engonce dans les soirées mondaines, il boit trop, il bouffe trop, voilà, quoi, c'est nous. C'est un homme comme les autres. Et donc le côté divin a complètement été effacé. C'est assez réussi, hein. Et alors là, on voit également des petits détails, hein, sur. Bon, c'est ça le plus important, évidemment, de cette mosaïque. C'est la comparaison, hein, des deux bonhommes. Mais là, on voit la surdimension du cosmos. Vous voyez le personnage de gauche, hein. Et on est très attentif au baptême de Matthieu, dans Matthieu, qui dit, Jésus dit à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste proteste en disant, mais non, t'as pas besoin d'être baptisé. Ben, voilà, il dit même, avant que j'étais, tu le fus, donc t'as pas besoin d'être baptisé. C'est plutôt l'inverse, j'aurais besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus dit, non, laisse faire pour le moment. Et Matthieu ajoute, et il le laisse à faire. Donc c'est Jésus qui est acteur. Et regardez, on voit bien en effet que c'est l'Esprit Saint qui baptise. Et comme s'il y avait de l'eau qui tombait de la colombe. Donc c'est une affaire entre Dieu et Dieu. Jean-Baptiste peut en effet se retirer. Laisse faire pour le moment. Et alors, donc, le cosmos est évidemment ici surdimensionné. Alors, c'est quand même intéressant, vous voyez, donc, cette dimension de à rien, vous voyez, avec une chair un peu empesée, mais c'est une chair qui connaîtra le salut. Donc voilà, regardez bien cette image et de plus près, avec un autre contraste. Et regardez celle-ci. Voilà, s'il fallait encore s'en convaincre. Et voilà, c'est avec ces belles images que s'achève ce cours. Donc la prochaine fois, on va s'intéresser davantage à l'Esprit Saint. Voilà, donc comme personne de la Trinité. Et puis il y aura une série, là aussi, une série d'images avec des textes que je vous donnerai, les promesses du Saint-Esprit dans Saint Jean. Voilà. Alors écoutez, on a encore un peu de temps, hein, donc. Ah, c'est marrant, je suis très en avance aujourd'hui. Bah, tant mieux, ça va nous faire une petite soirée. S'il y a des questions, évidemment, allez-y. Voilà, j'ai entendu un essai. Allez-y, allez-y. Ouais, allez-y, on n'entend pas. On n'entend pas.
Débloquer votre micro.
Ah, voilà, oui, là, on entend.
Oui, voilà. Ce que vous avez dit sur la gnose m'a fait penser à l'alchimie. Est-ce que les initiés, est-ce que les alchimistes ne sont pas ces personnes qui se veulent initier et pour découvrir les mystères de la matière, de Dieu, etc.
Ah ouais, c'est intéressant. Alors, il y a alchimique et alchimiste au Moyen Âge. Hein, il y a en effet, parmi les alchimistes, il y a des gens qui sont très ésotériques et qui constituent des castes quasi secrètes. Tandis que au début, le projet de l'alchimie, c'était que on cherchait à comprendre les lois de la matière. Étant entendu qu'à partir du moment où on comprenait les lois de la matière, on pouvait rentrer dans l'intelligence de celui qui les avait faites, ces matières. Et donc, au début, c'était un projet de communier à l'intelligence divine. Et c'est progressivement que c'est devenu pas tout à fait une secte, hein, mais en effet un mouvement ésotérique. Alors, l'Église a eu par rapport aux alchimistes un rapport très ambigu. C'est-à-dire, on s'en méfiait, mais on les a utilisés. Par exemple, pour les règles de proportion architecturale, et on en a la trace dans quelques cathédrales. Voilà, mais donc il y a alchimistes et alchimistes, il y a ceux que l'Église a acceptés, puis ceux qui pour rien au monde ne voulaient contribuer, collaborer avec l'Église.
D'accord. Merci. Mais pourquoi sont-ils aussi, comment dirais-je, aussi peu officiellement nommés, reconnus? C'est toujours un
Alors,
peu secret, l'alchimie.
oui, alors parce qu'ils le voulaient. Ils voulaient rester secrets. Et c'est ça, en fait, qui les a fait rejeter. Je vous ai dit, ils ont été quand même un peu utilisés par l'Église,
D'accord.
mais globalement rejetés parce qu'il y avait ce côté secret. Or, dans l'Église, le principe, c'est que rien n'est secret. Enfin, du moins du contenu de la foi.
Oui.
Ouais, c'est surtout ça.
Merci.
Oui, moi je voudrais dire, dans une des encycliques du pape François, il en parle de la gnose comme étant un mal très très fort. Et lui, il fait pas référence, il donne pas le sentiment qu'il fait référence à l'histoire, mais il parle du présent. Quoi, il dit que la gnose, et qu'il y a bon, un certain nombre de chrétiens, ils ont une connaissance qui les différencie des autres, qui les met un peu en état de supériorité, et que c'est quand même un grand danger parce que, en effet, c'est pas par la connaissance qu'on arrive au salut, quoi. Je pense que
Oui,
c'est ce qu'il veut dire.
absolument. C'est d'abord le salut, c'est d'abord la personne du Christ. C'est pas mon intelligence. Voilà, ça c'est évident. Or, de fait, il y a depuis le rationalisme de la modernité, il y a une espèce de cancer de l'intelligence. Comme si l'intelligence allait nous sauver de tout, y compris de la crise écologiste, de la crise écologique. Oui, espérons que l'intelligence viendra à notre aide pour réparer les mal, pour éviter qu'on en fasse davantage. Mais il y a une prétention de l'intelligence en disant, par exemple, on trouvera toujours une solution. Voilà. Voilà, donc continuons à faire ce que nos ingénieurs trouveront bien à nous faire vivre sur notre planète. Il y a même des gens qui pensent ça. Voilà, c'est délirant, délirant. Et donc, alors, en effet, il y a toujours une prétention de l'intelligence. Hein. Alors, il y a des gens très intelligents que vous connaissez, hein, heureusement. Hein. Nous, on connaît tous des gens très intelligents qui sont d'une merveilleuse simplicité. Mais depuis le 17e, les gens intelligents ont tendance quand même à croire qu'ils détiennent la vérité. Achtung. Détenir la vérité, hein, même pour les religieux, c'est attention.
Ouais, c'est très très dangereux, oui. Il y a...
Très. Très.
Je ne sais plus qui a dit si tu as la vérité, je te fuis, mais si tu la cherches, je te suis.
C'est
Je ne sais
ça,
plus.
oui.
Ouais.
Absolument. Mais
Ok, merci.
oui. Et donc l'Église ne prétend pas avoir la vérité, mais prétend qu'il y a la vérité.
Voilà.
Voilà.
C'est le Christ a dit, je suis la vérité, le chemin.
Voilà. Ben c'est lui et lui seul. Et il reste insaisissable. Ah, c'est très intéressant, oui. Y a-t-il d'autres questions?
Pas forcément une grande question, c'est juste je vous remercie pour la subtilité entre adoration et vénération. Ça me perturbe un peu et je crois que j'ai du travail à faire et je le relis un peu avec piété populaire où je pourrais parfois avoir un côté un peu désagréable à dire c'est de la superstition pour être passé récemment en Égypte et voir les moines coptes. Alors j'ai compris qu'ils vénéraient. C'est pas un comportement que je suis habituée à
Oui,
avoir.
oui,
Mais
oui.
ce que je peux comprendre de cette démarche, et c'est avec beaucoup d'humilité que je vois maintenant des personnes, oui, peut-être toucher une statue ou embrasser une statue. Et voilà, ça m'a fait
Oui,
revenir
oui,
sur
oui.
beaucoup d'humilité et de prudence sur mon regard.
Oui. Et alors, d'autant plus que les orientaux sont très tactiles. Et ils baisent beaucoup, ils embrassent, ils touchent, ils caressent. Ils sont... Alors, nous, ça nous paraît souvent un peu, ouh là là, on se dit, enfin... En fait, c'est ça. C'est... Mais ils le font pareil avec leurs amis. Et ils sont très tactiles, et ils vous embrassent assez facilement. Avec les prêtres, les enfants baisent la main des prêtres. Ouais, bon, nous, on est toujours un peu gênés hein, quand on va dans ces pays-là. Bon, voilà, mais c'est voilà, c'est comme ça, c'est l'Orient. Alors, en effet, j'espère, hein, parce qu'il peut y avoir de la superstition, mais j'espère que c'est beaucoup plus que de la vénération que de la superstition. Bon, eh bien, écoutez, on se retrouve dans 3 semaines. C'est triste, hein? Mais enfin, les vacances, c'est bien. Bon, alors, au plaisir de vous revoir en meilleure forme.
Merci,
Et à bientôt.
merci beaucoup, bonne soirée. Bonsoir.
Ciao.
Bonsoir.
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 Au revoir à tous.